Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry.
Et bonjour Émilie.
Vous interrogez donc aujourd'hui dans les enjeux internationaux le pouvoir des armées africaines.
Voilà, que peuvent en pratique les armées africaines? C'est un colloque qui se tiendra à l'école militaire demain et après-demain, mais sur inscription. Les nouveaux visages des armées africaines, vous en êtes occupé, Sonia Le Goyelec. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, pour l'Afrique de l'Est. Alors évidemment, s'il y a une région dans le monde où les armées ont une fonction à la fois interne et externe, c'est bien l'Afrique subsaharienne. Au lendemain des indépendances, l'institution militaire est le parti unique, on pourrait dire d'une certaine façon l'Église catholique, constituait souvent des piliers des systèmes politiques, transethniques, c'était leur intérêt. Et d'autre part, on assistait évidemment à des coups d'État très nombreux, des tentatives de coups d'État aussi très nombreuses depuis des décennies. Alors ce qui est très intéressant et ce qui est plutôt positif, c'est qu'en Afrique, il y a très peu de conflits interétatiques. Je vais noter là de Volta Mali en 85, et puis entre autres bien sûr, et puis Érythrée-Éthiopie beaucoup plus sérieuse à la charnière des années 2000. Alors depuis 30 ans, on a constaté la multiplication de conflits internes, de guerres civiles, c'est Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire bien sûr, ainsi de suite, les guerres urbaines, les milices armées, les gardes prétoriennes. Enfin, il y a une dégénérescence quand même de la chose militaire en Afrique. Quel est le paysage qu'on peut donner précisément de... Alors évidemment, quand on globalise, on est obligé de simplifier, mais enfin, c'est la règle du jeu.
Alors, le paysage général, j'ai presque envie de citer un article de Jeune Afrique il y a quelques mois qui disait que les armées africaines étaient mal équipées, mal commandées, en piteux état et que ça allait très mal. Donc, alors, il faut un petit peu nuancer.
Relativiser
parce que,
peut-être, oui.
Oui, voilà. On a toujours en France une vision surtout de l'Afrique francophone, de l'Afrique de l'Ouest, avec ce qui s'est passé au Mali, etc. Donc, faut relativiser. Mais quand même, les grandes lignes qu'on peut tirer, déjà, c'est que, bien sûr, il n'y a pas un modèle d'armée africaine, il n'y a pas un modèle issu de la colonisation, il y a plusieurs modèles, que ce sont beaucoup, effectivement, des armées peu équipées, avec peu d'entraînement. Les populations africaines sont peu engagées dans les forces armées. Je crois que c'est 0,2% de la population africaine qui est engagée dans des forces armées, pour 0,48% en France. Donc elles sont peu engagées, et elles sont peu financées également. Il y a peu d'argent et peu d'équipement.
Et il y a aussi quand même dans beaucoup de pays une culture de l'ennemi intérieur.
Il y a une culture c'est un des gros défis de ces années actuellement, c'est que les missions des armées africaines ont beaucoup évolué. Les missions des armées africaines, c'est maintenant de la contre-insurrection, du contre-terrorisme, du maintien de la paix, de la reconstruction de l'État. Pour certaines qui sont plus des armées prétoriennes que des armées nationales, c'est aussi protéger un régime ou protéger un président. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions. Et ce qui explique aussi les difficultés de certaines de ces armées.
Mais est-ce qu'elles sont vraiment entraînées, équipées pour ces nouvelles missions ou ces missions qu'elles s'attribuent, en dehors même du maintien de la paix qui est un autre cas?
C'est la grande question, parce que typiquement, si je prends l'exemple du Nigeria, après la guerre civile de 1967-1970...
Biafra.
Du Biafra. Il y a une culture stratégique, il y a eu un remodèlement des structures de l'armée, et la vision, c'était que la menace venait de l'extérieur. Et du coup, le Nigeria s'est beaucoup engagé dans des opérations de maintien de la paix.
Il faut rappeler
dans l'environnement
que l'extérieur
régional
du Nigeria est très intéressant. Oui. Il n'a le Nigeria comme voisin que des pays francophones.
Voilà. Donc en plus, il y a un effort aussi là-dessus, parce qu'ils sont engagés dans des opérations de maintien de la paix francophones. Et ça explique en partie aussi l'échec aujourd'hui du Nigeria à lutter contre Boko Haram, à lutter contre un conflit infra-étatique sur son sol.
Mais ça, on ne peut pas le lui reprocher. Les armées ne sont pas faites pour la lutte antiterroriste, normalement.
Mais,
c'est pas leur cœur de métier.
Oui, effectivement. Mais du coup, ça pose la question de l'entraînement et de l'adaptation à des nouvelles formes de conflits.
Alors qui les aide de l'extérieur, les grands donneurs d'aide justement? On imagine tout de suite la France, le Royaume-Uni, les États-Unis.
La France, bien évidemment, continue à entraîner une forte coopération militaire avec les troupes africaines, mais plutôt d'Afrique francophone ou des anciennes colonies qui viennent en France à l'école de guerre. Il y a une école de guerre qui a été ouverte au Cameroun. Les États-Unis investissent beaucoup dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, donc dans le Sahel et dans la Corne de l'Afrique énormément. La Chine est un des principaux vendeurs d'armes et le premier sur les armes légères et de petit calibre. Les troupes africaines vont s'entraîner entraîné en Inde, dans un centre de formation au peacekeeping. La Turquie fait un grand retour également, plutôt en Afrique...
Ce sont des grands spécialistes de la chose militaire, là.
Oui, plutôt en Afrique de l'Est,
ils doivent être bien entraînés, les Africains, là.
Effectivement, et qui s'appuient d'ailleurs beaucoup, dans sa rhétorique, la Turquie s'appuie beaucoup sur le fait qu'ils ont une tradition différente de faire, qu'ils sont un pays musulman. Et voilà. Oui. C'est ce qu'ils ont beaucoup vendu dans leur discours aux Somaliens, notamment.
Alors pourquoi vous êtes spécialiste d'Afrique de l'Est? Quand on regarde la carte de l'Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique, mais de la Corne de l'Afrique très étendue, c'est une conjugaison, une addition de conflits extrêmement longs, meurtriers, d'autre part interagissants, évidemment, on pense au conflit éthiopien, etc. Et on a là presque une sorte de réservoir de la polémologie, comme on dit, d'une façon un peu prétentieuse.
Oui, c'est vrai qu'on a, un laboratoire,
un laboratoire
de l'Afrique,
incroyable.
De tous les types de
sans
conflits.
Sans parler de la Somalie, qui n'existe plus.
Qui réexiste,
qui
essaye de réexister.
En
il y aura des
morceaux.
Élections, il y aura des... Donc, effectivement, c'est très compliqué. Donc, vous avez des conflits internes, vous avez des conflits interétatiques, vous avez la lutte contre le terrorisme. Donc là, on a tout type de conflits. Et ce qui est intéressant, c'est que les armées de la Corne de l'Afrique sont aussi celles qui sont le plus engagées dans les opérations de maintien de la paix. Alors, ça va peut-être vous étonner. Et pourquoi? C'est la grande question. Ça va peut-être vous étonner, mais l'Éthiopie, dont on a l'image des années 80, pauvre, etc., l'Éthiopie, c'est un des pays qui envoie le plus de troupes à l'étranger. Ils ont près de 12 000 troupes dans des opérations de maintien de la paix de l'ONU ou de l'Union africaine. L'Ouganda est également très investi dans le maintien de la paix avec l'Union africaine, donc en Somalie, au Soudan. Le Burundi également. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous les pays que je viens de citer sont des pays dont le régime est issu d'un mouvement de libération nationale, donc de guérilla interne pour faire tomber un ancien président. Et du coup, il y a des recherches qui se portent actuellement pour essayer de comprendre pourquoi c'est eux qui engagent aussi le plus de troupes.
Pour occuper les guêtres.
Il y a plusieurs hypothèses, effectivement. Pour occuper les troupes en dehors du territoire, pour les sortir du territoire. Ça, on retrouve ça également au Tchad. Marielle Debeaux avait fait un livre sur le métier des armes. Et au Tchad, on est rebelle, on est dans l'armée l'armée de l'État. Le changement se fait assez rapidement. Et l'insurinvestissement ces dernières années dans les opérations de paix, avec ce qui s'est passé au Mali et après les crises internes, s'explique aussi par le fait qu'il faut peut-être
les occuper. Mais en même temps, ça leur donne un savoir-faire au sein de l'ONU.
Et alors, ça, on pourrait le retrouver pour toutes les troupes africaines. Il y a quand même des aspects positifs aux opérations de paix. C'est que, déjà, les troupes touchent un perdième. Enfin, l'État touche des perdièmes qu'elle reverse aux troupes. Alors, ça crée parfois des disputes parce que tous les États ne reversent pas la même somme aux troupes. Le Burkina Faso reverse tout aux troupes parce qu'ils ont une histoire de rébellion assez forte. Mais du coup, les troupes, lorsqu'elles opèrent ensemble, se rendent compte qu'elles ne sont pas toutes traitées de la même façon, qu'elles ne reçoivent pas le même perdième, qu'elles n'ont pas le même entraînement, qu'elles n'ont pas les mêmes uniformes, etc. Ça crée aussi des mutineries. Et lors du colloque, on aura justement un papier là-dessus, sur les mutineries qui peuvent naître de la participation aux opérations de maintien de la paix. Ça permet aussi de renouveler le matériel militaire, qui doivent être aux normes de l'ONU ou de l'Union africaine. Ça permet parfois de faciliter...
Ça renforce une politique étrangère aussi, quand elle existe?
Bien sûr, ça permet de formuler une politique étrangère. Ça permet aussi parfois de renforcer l'autorité en interne. Et ça renforce les élites qui sont au pouvoir en interne et sur l'économie interne. Et c'est aussi pour ça que les pays qui participent énormément aux opérations de maintien de la paix échappent aux pressions de démocratisation, on va dire, et qu'il est très difficile de leur faire...
Ah oui, c'est ça, on s'attribue un brevet de bonne conduite internationale.
Voilà. Il est très difficile de faire des reproches au président ougandais qui s'est représenté pour la quatrième ou cinquième fois à la présidentielle. Il y a des difficultés internes en Éthiopie.
Et qui a été très impliqué dans une épouvantable guerre civile jusqu'en les années 87,
fin des années 80,
par là. Oui. Quelque chose comme ça. Oui. Mais il sait de quoi il retourne.
Exactement. Donc, mais on a besoin d'eux en Somalie. Nous n'avons pas été, enfin, les Occidentaux n'ont pas voulu aller en Somalie. L'ONU n'a surtout pas voulu remettre les pieds en Somalie. Et donc, à un moment, c'est l'Union africaine qui est allée et on les suit.
Bon, alors à suivre, en tout cas demain et après-demain, École militaire, les nouveaux visages des armées africaines. On retrouvera donc les indications sur notre site franceculture.fr.